journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Cette fois, place à la fête. Tokyo lance officiellement ses Jeux Olympiques à 13h, heure française. Vous entendrez l'histoire de ces Jeux gâchés par la pandémie avant même d'avoir commencé. La joie tout de même de la porte-drapeau française, la judoka Clarisse Agbenienou. Nous ferons le point aussi sur les chances de médailles tricolores. Au terme d'une deuxième nuit de débat très âpre, les députés ont adopté en première lecture la loi sur l'obligation vaccinale et l'extension du pass sanitaire. Les députés LR se sont abstenus, la gauche a voté contre. On en parle avec votre invitée Amélie.
Oui, parce qu'elle sort tout juste de l'Assemblée nationale. Elle est députée, ancienne ministre de l'écologie et candidate à la primaire des Verts. Delphine Bateau viendra nous dire comment elle se positionne effectivement sur la crise sanitaire actuelle. Elle nous parlera également de ce qui la différencie de ses concurrents parmi les écologistes et à quoi pourrait ressembler une présidente écologiste en 2022. Dialoguez avec elle en posant vos questions sur l'appli France Inter et en appelant dès maintenant au 01 45 24 7000.
Hacker éthique ou éducateur de robots, ces métiers du futur vous font rêver. Le gouvernement lance un appel à idées pour financer des formations innovantes. Et puis un tour à l'ombre, à la fraîche, à la fin de ce journal, dans le plus vieux cinéma du monde, à La Ciotat, près de Marseille.
France Inter.
Dans les starting blocks, malgré les restrictions sanitaires, l'absence de public, les tests quotidiens, les athlètes répartis en 206 délégations s'apprêtent à défiler pour la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce sera à 20h à Tokyo, 13h, heure française. Une cérémonie simple et sobre, nous dit-on, en présence de quelques invités triés sur le volet, dont Emmanuel Macron. La fin pour le Japon d'une véritable course d'obstacles depuis l'obtention des Jeux en 2013, 2 ans après la catastrophe de Fukushima. Ces Jeux auraient dû être ceux de l'espoir et du renouveau. Ils ont viré au cauchemar. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Corinne.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Tokyo et dès le départ, ces Jeux, Jérôme, étaient partis sous de mauvais auspices.
Oui, jamais les Jeux n'auront été un tel calvaire pour un organisateur. Et ce, en effet, dès le départ, avec le futur stade olympique, le Japon est très ambitieux. Mais le budget explose et face à l'opposition de la population, le gouvernement renonce et opte pour un projet plus classique. Et comme les déconvenues, les polémiques s'accumulent d'abord sur le logo, un plagiat d'un logo belge. Puis, après les propos sexistes du président du comité d'organisation contraint de démissionner en février dernier, la liste des personnes débarquées là aussi pour des propos douteux s'est d'ailleurs allongée ces derniers jours, mais c'est évidemment la pandémie qui a failli porter un coup fatal aux Jeux. Reporté, il devait incarner, vous l'avez dit, la lumière au bout du tunnel, mais rien n'a fonctionné comme prévu malgré les sacrifices. Le spectre d'une annulation a même plané sur Tokyo quasiment jusqu'au dernier moment, d'où le soulagement du président du CIO, Thomas Barr.
Je pense que ce sera un moment de joie et un soulagement, notamment pour les athlètes quand ils vont rentrer dans le stade. La route jusqu'à cette cérémonie d'ouverture n'a pas été la plus simple, vous le savez. Il y a un proverbe allemand qui dit « Les pierres tombent de mon cœur ». Si vous entendez des pierres tomber, elles viennent de mon cœur.
Et ces Jeux seront aussi ceux des dérives budgétaires. La facture est de plus de 13 milliards d'euros. Certaines études évoquent même un dépassement à plus de 20 milliards.
Alors quand même, désormais place au sport. Hein. Désormais, Jérôme, du côté des athlètes français, on espère faire au moins aussi bien qu'à Rio, c'est-à-dire 42 médailles, c'est ça ?
Oui, 42 médailles à Rio, dont 10 en or. Alors, il y a les figures incontournables ici, notamment au pays du judo, avec Teddy Riner pour un troisième titre olympique d'affilée et Clarisse Agbenienou pour son premier sacre. On suivra aussi Kevin Mayer en décathlon. Il avait fini avec l'argent il y a 5 ans. Ou encore Charline Picon en planche à voile qui va défendre son titre. La vététiste Pauline Ferrand-Prévot est très ambitieuse. Florent Manaudou en natation va-t-il réussir son pari 2 ans après son retour dans les bassins? Et puis les autres chances de titre, on citera Vincent Louis en triathlon ou Steven D'Acosta en karaté, sans oublier Corinne évidemment, les handballeuses et les handballeurs double médaillés olympiques.
On suivra tout ça de près avec vous, merci Jérôme Val, avec les moyens techniques de Radio France. 80 athlètes français seulement sur les 378 qui participent à ces Jeux défileront tout à l'heure, derrière leur porte-drapeau, le gymnaste Samira Itsaït et la judoka Clarisse Agbenienou. Elle a bien l'intention d'en profiter, elle l'a dit à Stéphanie Mora.
Avec Samir, on est à fond, on a dit qu'on allait en tout cas profiter de cette soirée, qu'on allait tout donner, qu'on allait rigoler. C'est pour nous magique, on est quand même porte-drapeau. On n'aurait jamais pensé à être porte-drapeau dans notre carrière de sportif. Et je pense que ça, c'est qu'une fois dans nos vies. Donc on va profiter, peu importe qu'il y ait du public ou pas. C'est très dommage pour nous. En tout cas, on va vraiment prendre cette soirée pour nous, décompresser, et je lui donnerai toute la force pour lui, pour son épreuve du lendemain. Maintenant, on sait que la soirée va être longue, et après, moi, j'ai quand même 4 jours après cette cérémonie. Donc, j'ai pas mal de chance et je vais bien en profiter. Et je vais profiter aussi d'avoir toute cette belle énergie, cette bonne énergie pour me ressourcer.
Oui, on l'a dit, Clarisse Agbegnénou, qui espère décrocher la médaille d'or chez les moins de 63 kilos. Ce sera mardi prochain.
Dans un autre genre de course d'obstacles, les députés ont achevé ce matin la première lecture de la loi sur l'obligation vaccinale et l'extension du pass sanitaire.
Oui, après une nuit de débats très âpres, le texte a été adopté un peu avant 6 heures ce matin par 117 voix pour et 86 contre. Voter l'extension du pass sanitaire pour entrer dans les trains, les cafés, les restaurants à partir du mois d'août et l'obligation vaccinale pour les soignants, les pompiers, les auxiliaires de vie. Les députés LR se sont abstenus, mettant en garde contre la volonté du gouvernement de mettre le pays sous cloche. La gauche a voté contre. Parmi les mesures les plus discutées, la possibilité de licencier les travailleurs d'établissements recevant du public qui refuseraient de produire un pass sanitaire. Écoutez le député de la France Insoumise, Alexis Corbière.
Le système que vous mettez en place retourne en quelque sorte la charge de la responsabilité. Et on l'a bien vu depuis le début, monsieur le ministre. Vous n'êtes plus responsable de rien. Vous êtes même parfait depuis le début. Et les seuls problèmes, ce sont les gens, les Français, malveillants. Et le pire en plus, c'est que sociologiquement, ce qu'on va retrouver, c'est que bien souvent, ceux qui se vaccinent le moins sont nos concitoyens les plus modestes.
Merci,
et donc, c'est une chasse aux pauvres que vous organisez. Et d'un point de vue social et politique, c'est totalement inacceptable.
La réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran.
L'état d'esprit du gouvernement, l'état d'esprit de ce texte, c'est certainement pas d'aller renvoyer des gens ou de les forcer à quitter leur travail. L'état d'esprit de ce texte, c'est d'encourager à la vaccination, que nous atteignions l'immunité collective, que toutes les personnes qui sont en contact du public par leur profession puissent être protégées elles-mêmes et assurer la protection des personnes avec qui elles sont en contact pour qu'on ne parle plus de ce virus et qu'on retrouve une vie normale et que chacun puisse garder ses emplois.
Les propos recueillis par Claire Flochel. Les sénateurs vont prendre le relais dès aujourd'hui pour une adoption définitive prévue d'ici dimanche soir. Et chez nos voisins, comment ça se passe? Avis à ceux qui partent en vacances en Italie. Rome vient de décider à son tour de se doter d'un pass sanitaire moins restrictif qu'en France. Il entrera en vigueur le 6 août et ne sera pas exigé en terrasse. À Rome, Bruce de Galzin.
Pas de passe en terrasse des bars et restaurants, ni même au comptoir. En revanche, il sera demandé si l'on s'assoit à table à l'intérieur. Obligatoire également au cinéma, théâtre, au musée, à la piscine, dans les salles de sport, dans les lieux clos, avec amende à la clé de 400 à 1000 euros. Mais pour Mario Draghi, le président du Conseil, c'est un gage de sérénité.
L'été est déjà serein et nous voulons qu'il le reste. Avec le pass sanitaire, les Italiens peuvent continuer leurs activités, se divertir, aller au restaurant, participer à des spectacles à l'extérieur comme à l'intérieur. Avec la garantie de se retrouver avec des gens qui ne sont pas contagieux. C'est une mesure qui donne et n'enlève pas de la sérénité.
Côté vaccination, Mario Draghi se félicite d'être au niveau des Allemands et devant les Français et même les Américains. Mais en Italie, il suffit d'une seule dose pour obtenir le pass, ce qui n'empêche pas Mario Draghi d'être plutôt clair sur le sujet.
L'appel à non vacciner,
appeler à ne pas se vacciner, c'est appeler à mourir. Tu ne te vaccines pas, tu es malade et meurs. Ou alors tu fais mourir, tu ne te vaccines pas, tu es malade et contamines lui, elle, qui meurt. C'est tout.
Pour l'instant, le pass sanitaire ne concerne ni les transports, ni l'école, ni le travail. Mais ces questions seront réglées dans les 2 semaines qui viennent. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et puis c'est une des découvertes liées au Covid-19. Selon la Haute Autorité de Santé, entre 5 et 10% des malades contaminés en 2020 ont développé ce qu'on appelle un Covid long. Entre 250 000 et 300 000 personnes souffrent de symptômes persistants, invalidants, 6 mois après leur contamination, comme des troubles respiratoires et cardiaques, des pertes de mémoire, une fatigue permanente. Leur convalescence s'éternise. Certains se demandent si leur maladie ne va pas devenir chronique. Le reportage de Cécilia Arbonnat.
Alors, c'est douleurs musculaires, maux de tête, fatigue inhabituelle et troubles de concentration.
Oui, j'ai pas repris le travail. Ouais.
Nous sommes dans l'unité du docteur Nicolas Barizien, chef de service médecine et réadaptation à l'hôpital Foch de Suresnes.
Donc aujourd'hui, on se stabilise entre 5 et 10% de patients qui vont développer un Covid long assez invalidant.
Silhouette gracile, Sophie, 42 ans, mère de 2 enfants, a été contaminée en mars 2020.
Bah ça fait 18 mois que ça dure. Je sens que c'est pas là, en fait, hein, pour participer à tout ce qui se passe autour de moi. Ah oui, moi, j'en souffre beaucoup, en fait, de ça. Ce handicap social, en fait. parce que c'est pas compris, parce que j'ai l'impression d'être un boulet toujours fatigué.
On sait que par exemple, quand on a un syndrome d'hyperventilation, on ne peut plus bouger, donc au bout d'un mois, on va commencer à avoir de la sédentarité supplémentaire qui va s'installer, on va perdre de l'endurance cardiaque, on va perdre de la masse musculaire, c'est facile à récupérer au bout d'un mois, c'est beaucoup plus compliqué au bout de 6 mois.
Qui me dit que ça va finalement revenir ? En effet, je pense que physiquement, rien n'est cassé et irréversible.
Alors c'est pas cassé, c'est détraqué. C'est que notre système de régulation, il est détraqué.
Je peux aussi m'imaginer que dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, est-ce que j'aurai encore des rechutes comme ça ? Je ne sais pas.
Un Covid long, négligé, non traité, pourrait s'enquister et devenir une maladie chronique.
Cécilia Arbona. La réplique du Maroc après les révélations de l'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel espion, utilisé pour surveiller des journalistes, des opposants, des chefs d'État. Les autorités marocaines attaquent Amnesty International et l'association Forbidden Stories, qui coordonne le consortium de journalistes à l'origine de ces informations et dont fait partie Radio France. Attaque en diffamation. Une première audience de procédure est fixée le 8 octobre prochain à Paris. Pourquoi pas devenir éducateur de robots, soignant numérique ou hacker éthique ? Ces métiers du futur, il faut les identifier pour former les jeunes d'aujourd'hui. Le gouvernement met 800 millions d'euros sur la table pour financer des formations. C'est le 4e programme pour l'investissement d'avenir. Pour commencer, les autorités lancent un appel à manifestation d'intérêt. Delphine Simon.
Dans certains cas, les besoins sont déjà là. Dans la cybersécurité et plus généralement le numérique, on manque de développeurs, explique Isabelle Rouen, chasseuse de tête. Elle dirige l'Observatoire des métiers du futur.
L'industrie numérique, c'est le premier secteur qui recrute en France et 80 000 postes restent vacants du fait d'un déficit de compétences. Sur la partie développeurs, clairement c'est une tannée. Il y a une volatilité et une obsolescence des compétences techniques qui est absolument terrible. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie d'entre 12 et 18 mois.
L'État veut donc impulser de nouvelles formations dans des secteurs comme l'hydrogène décarboné, l'industrie 4.0 ou l'environnement. Les candidatures sont ouvertes à des consortiums mêlant lycées, écoles, universités et entreprises. Enquête après enquête, les pénuries de compétences se creusent, confirme Gilles Gâteau, le directeur de l'Agence pour l'emploi des cadres.
Ces difficultés de recrutement dans certains secteurs ou pour certains métiers, certaines compétences, en fait, n'ont jamais disparu pendant la crise. Aujourd'hui, c'est 3 sur 4 qui ont des difficultés à trouver les candidats qu'elles recherchent. Donc oui, ça se traduit bien par une remontée des tensions sur certains métiers.
Des métiers dont la formation bénéficiera de 800 millions d'euros. Première série de candidatures mi-septembre.
Comme un stéthoscope pour écouter le cœur de Mars. Oui, c'est le rôle du sismomètre français qui équipe la sonde martienne de la NASA depuis 2018. Il a enregistré des centaines de séismes sur le sol de la planète rouge. La mission spatiale InSight dévoile ses premières découvertes et elles nous permettent de mieux comprendre de quoi est faite Mars, Sophie Becherel.
Vous allez entendre battre le cœur de Mars, promettaient les scientifiques lors du lancement de la mission. Une manière de dire que le sismomètre allait enregistrer les séismes sur la planète rouge et permettre ainsi de dévoiler sa structure interne. C'est chose faite avec la mesure du noyau notamment. Le fait qu'il occupe 54% de la planète a surpris, selon Philippe Lognonnet, le responsable de la mission CEIS à l'Université de Paris.
Finalement, on peut dire que le cœur de Mars est un peu plus gros qu'on l'imaginait. C'est un gros cœur qui a un rayon de 1830 km et qui est bourré d'éléments légers, de soufre, peut-être d'hydrogène, en plus du fer et du nickel.
Mars, il faut l'imaginer comme un oignon, avec plusieurs couches, un noyau, un manteau, une croûte. L'épaisseur de ces couches, leur dynamique, l'absence de grands séismes, toutes ces informations nouvelles vont permettre de mieux comprendre pourquoi les planètes du système solaire sont si différentes les unes des autres, précise Raphaël Garcia. Il est chercheur à l'ISAE Supaéro et co-responsable du sismomètre.
On sait par exemple sur Terre que la tectonique des plaques a joué un rôle crucial dans le nettoyage du carbone dans l'atmosphère et donc du coup, depuis à peine 500 millions d'années, on peut respirer à la surface de la Terre. La tectonique des plaques, on l'a observée sur aucune autre planète. Donc on essaie de comprendre toutes ces différences. Et on sait que la dynamique interne de la planète joue un rôle important dans ce processus d'habitabilité.
Cette étude comparative, c'est le domaine des planétologues, des minéralogistes. Avec ces données, ils ont de quoi travailler pendant des années.
Allez, Sophie Becherel, et puis on part un petit peu plus au sud, direction La Ciotat, où le cinéma, c'est une longue histoire. Vous vous souvenez bien sûr de l'entrée en gare du train de La Ciotat, un des premiers films tournés par les Frères Lumière. Mer. Eh bien, c'est aussi dans cette petite ville près de Marseille qu'ont eu lieu les premières séances publiques et payantes. C'était il y a 132 ans. La salle de l'Eden Théâtre, toujours en activité, fait son entrée au Guinness Book des records. Une belle récompense pour les équipes de cette petite salle associative où nous emmène Mathilde Vinceneuf.
À l'entrée de l'Eden Théâtre, une affiche, celle de la toute première séance de cinéma, une vingtaine de films dont le lancement d'un navire à La Ciotat, prix du fauteuil 75 centimes.
La séance à tester qui nous a permis d'obtenir ce Guinness des records, c'est 1899.
Marie-Laure Smilovici est la directrice et arrière-petite-fille des propriétaires historiques. Sa famille s'est battue pour sauver cette salle, mais ce record, c'est aussi 2 années de travail pour Michel Cornille, le président de l'association Les Lumières de l'Éden.
Il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah, ma grand-mère, elle a connu mon grand-père à l'Éden ».
Vous voyez, vous avez l'impression de rentrer non pas dans une salle de cinéma telle qu'on les connaît aujourd'hui, mais plutôt dans un théâtre à l'italienne.
Avec ses sièges rouges, bien sûr, ils portent chacun une plaque au nom des célébrités qui sont venues ici. Au premier rang, la famille Lumière, mais aussi Yves Montand.
Pourquoi ? Parce que Yves Montand est venu chanter dans les années 38-39.
Et puis à l'étage, la cabine de projection.
Donc, cabine équipée des dernières technologies. On passe tout en numérique, mais une fois par mois, on va chercher une bobine et on passe quelque chose en argentique.
Chaque année, ce sont 1200 séances qui sont projetées ici. La Ciotat, Mathilde Vinceneuf, France Inter.
Une petite séance à La Ciotat, voilà, qui donne un petit air de vacances.
Bonne journée, Amélie. Parle. Merci à vous aussi, Corinne Audouin. Merci pour ce journal. Des nouvelles du temps de ce vendredi.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et Stéphanie Fromentin, vous nous annoncez la dernière journée de calme et de grosse chaleur.
Oui, effectivement, car les orages arrivent par l'ouest et par vagues. La première vague déferle déjà ce matin sur la Bretagne, où les orages sont localement forts, accompagnés de vent, de grêle, de fortes averses. Le voile nuageux qui en découle s'étire sur la moitié ouest et procure des entrées maritimes dans les plaines du sud-ouest et surtout sur le golfe du Lion. En fin de matinée, la seconde vague arrive. La perturbation pluvio-orageuse va s'étendre à la Normandie, la Seine-Maritime et toute la côte atlantique. Le ciel sera très chaotique sur ces régions. Et puis en fin de journée, c'est la troisième vague qui se déclenche. Elle démarre du Limousin, s'étend jusqu'au nord de l'Auvergne et la Bourgogne pour rejoindre demain matin le nord-est. Météo France place 14 départements en vigilance orange pour ces forts orages sous lesquels les cumuls de pluie pourraient être importants. 3 départements de Bretagne, la Manche et 10 départements de l'Yonne au Cantal. La Normandie est sous surveillance. Il n'est pas exclu qu'elle passe aussi en vigilance orange en cours de journée. Et puis l'Aisne et l'Oise sont maintenues en vigilance. Crue.
Les températures sont encore chaudes hein, quand même, Stéphanie.
Oui, seule la Bretagne et la côte atlantique, évidemment, amorcent déjà une baisse, comptez 22 à 25 degrés. Ailleurs, il fait donc chaud, 26 à 32 de la Normandie et les Hauts-de-France au Grand Est jusqu'à la Franche-Comté, ainsi que sur le littoral méditerranéen et la Corse. 35-36 dans l'arrière-pays provençal, voire 38 degrés dans le Tarn.
Stéphanie Fromentin, à tout à l'heure, merci.
À tout à l'heure.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
C'est Géopolitique avec vous cet été, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous avez voulu faire le portrait du Japon à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques.
Oui, et je voulais commencer par une histoire qui, vous allez voir, n'a rien d'anecdotique. Il y a quelques jours à peine, on apprenait que le président sud-coréen Moon renonçait à se rendre à Tokyo pour l'inauguration des Jeux Olympiques. Un vrai camouflet pour le Japon, mais un camouflet qui répondait à un autre bien plus embarrassant. Un diplomate japonais de haut rang en poste à Séoul s'était en effet permis de qualifier de branlette, je cite et je traduis, la volonté du président coréen de se rapprocher de Tokyo. Alors évidemment, le diplomate en question s'est rétracté et sera probablement remplacé dans les jours qui viennent. Mais dans une région où chaque mot compte, cette saillie d'un diplomate assermenté ne pouvait qu'aboutir à une catastrophe pour Tokyo. C'est donc chose faite.
D'autant qu'entre Séoul et Tokyo, les relations ont souvent été tendues.
Voilà, sans revenir sur la période qui a vu Tokyo coloniser la péninsule coréenne, ni sur la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les Japonais se sont particulièrement mal comportés avec les Coréens, la question que pour cet incident est la suivante. Le Japon est-il capable de bâtir dans la région des alliances solides pour contrer la puissance chinoise ? Tokyo et Séoul partagent pourtant le même régime démocratique, le même allié stratégique, les États-Unis, et le même développement économique. Pourtant, ces deux-là semblent incapables d'une alliance solide. Et s'il fallait désigner un coupable, c'est du côté du nationalisme japonais qu'il faudrait le chercher. L'incapacité de Tokyo à reconnaître les erreurs du passé rend tout rapprochement extrêmement difficile.
Le Japon se replierait-il sur lui-même ?
Mais ce ne serait pas la première fois de son histoire. Et la façon dont les Japonais ont organisé ces Jeux Olympiques, paniqués à l'idée d'accueillir le monde entier en pleine pandémie et donc condamnés à se claquemurer de peur, en est presque la métaphore parfaite. Le Japon, c'est le pays développé qui accueille le moins d'étrangers sur son sol, moins de 2% de sa population totale, un chiffre ridiculement bas et qui pèse d'autant plus lourd que sa population vieillit comme aucune autre au monde chaque année. Écoutez bien, le Japon perd un demi-million d'habitants, une dépopulation unique au monde. Les Jeux Olympiques étaient pour Tokyo une sorte de pari, celui de briser ce mauvais sort et de montrer au monde que le Japon pouvait encore briller et rassembler.
C'est un pari qui semble perdu.
Alors pour le moment, c'est vrai, hein, mais avec un peu de modestie et de réalisme, le Japon peut encore fédérer des alliances pour l'avenir avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec, et surtout avec les Philippines ou l'Indonésie. La peur commune que suscite la Chine et le temps qui passe et qui guérit tout devrait probablement l'y aider.
Merci Anthony Bélanger, géopolitique. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec la députée écologiste Delphine Bateau.